Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
On ne parle pas la bouche pleine.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Crugère.
Sortez.
On ne sait où il habite. On l'appelle la marmite. Ce n'est pas un apprenti micron. C'est un joyeux vagabond. En attendant qu'on lui serve dans sa boîte de conserve un peu plus que son pain quotidien, la marmite va et vient.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, nous sommes à table avec Nicolas Rouvière. Et Nicolas Rouvière est un homme sérieux puisque c'est un chercheur, c'est un agrégé en littérature qui a fait sa thèse de doctorat, qui a été primé par le journal Le Monde. Vous pouvez donner même l'intitulé exact de la thèse.
De la thèse, c'était Astérix ou la construction de l'identité. C'était une lecture anthropologique et politique d'Astérix. Matinée d'un peu de psychanalyse.
Et là, votre dernier livre s'appelle Le complexe d'Obélix, au PUF. Et ce complexe d'Obélix, c'est aussi un peu une histoire de marmite ou de chaudron.
Ah oui, Obélix est indissociable de l'épisode de la chute dans la marmite. Et quand on regarde bien la forme de son corps, on voit qu'Obélix est une marmite sur pattes. C'est un tronc qui dépasse d'une marmite et ses bras épousent très exactement le contour et la forme du récipient. Donc on peut dire que voilà, le fantasme d'incorporation, le désir du plein et le rapport au ventre est constitutif du personnage.
Alors, le rapport au ventre, c'est vraiment le propos de notre émission d'aujourd'hui, puisque ce qui nous intéresse, c'est le ventre d'Obélix, ce ventre qui a un petit creux là.
Oui, il a toujours un creux, un insatiable creux. Hein, et pourtant, Dieu sait s'il est rempli, ce ventre, hein, de sangliers, dont on sait qu'il les aime à la croque, rôti ou au sel. Il est rempli de douzaines d'huîtres qu'il ingère, évidemment, avec les coquilles. Rempli d'ours, rôti, c'est meilleur, hein, ou même parfois de chameaux, meilleur que les dromadaires car il y a deux bosses. Voilà, un appétit absolument insatiable.
Comment ce petit village avec sa poignée de guerriers peut-il résister encore et toujours au puissant envahisseur romain ? Eh bien, c'est grâce à la potion magique que prépare le druide Panoramix et qui donne une force surhumaine à ceux qui ont le bonheur de la boire.
Non, Obélix, non. Les effets de la potion sont permanents chez toi. Tu sais que tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit.
Tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette potion et pourquoi cette potion a un rôle si capital ?
Alors, elle apparaît nimbée d'une sorte de mystère occulte dans un premier temps. Et puis, en fait, on s'aperçoit qu'avec un dégrossissement comique, il s'agit d'une recette de cuisine populaire faite d'un peu de fruits, d'herbes, de plantes, avec différents goûts, homards, pralines. Donc, on voit qu'il y a une désacralisation, en fait, de cette mixture. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'est pas une potion qui délivre la toute-puissance, ni l'omnipotence. Elle n'a que des effets limités, elle ne rend pas invulnérable. Et d'ailleurs, le druide ne la délivre que si les personnages font preuve d'abnégation, s'ils acceptent finalement la perte, le manque, s'ils renoncent à ces fantasmes de toute puissance. Et donc, elle en vient peut-être même à symboliser le contraire, c'est-à-dire justement l'acceptation des limites. Et c'est précisément ceci dont Obélix a besoin de se nourrir. Et il y a un épisode fondateur, donc, qui est la chute dans la marmite, qui nous est révélé dans un récit qui date...
Très tardif, oui.
Oui, de 1965, après coup, comme très souvent dans la littérature populaire, où on a besoin de refonder, en fait, les personnages en raison.
Astérix, c'est 59
Voilà, c'est créé en 1959, en même temps que la création du journal Pilote. Et le premier album est publié en 1961 par Dargaud, à la demande des auteurs qui voyaient bien le succès. Et donc, il fallait absolument embrayer avec des publications en librairie. Et donc, en 65, on a cette fois-ci la révélation. Et on découvre, contre toute attente, qu'Obélix, avant de tomber dans la marmite du druide, était en réalité le bouc émissaire des enfants du village. C'était un petit garçon renfermé, solitaire, apathique, qui parlait peu, qui avait des difficultés à l'école avec le druide et qui s'ennuyait. C'est un enfant qui s'ennuie, un mélancolique, une figure du mélancolique. Et un jour, Astérix lui dit « Mais ça ne peut plus durer, il faut donner une bonne leçon aux autres garçons du village. Tu vas t'introduire dans la hutte du druide et boire un petit peu de potion magique et leur donner une bonne correction. » Et puis, Obélix est très impressionné, donc il s'avance à l'entrée de la hutte. Il est impressionné en particulier par les grandes serpes qui pendent, la figure de la coupe.
Serpe d'or, castratrice.
Voilà. Castratrice, exactement. Et par contre, attiré par le fumet qui s'élève de la marmite, sa rondeur maternelle, rassurante. Et puis, voilà que Panoramix revient et il se précipite et par mégarde tombe dans la marmite. Et là, on assiste à un grand cri. Et donc, on a la scène symbolique d'une naissance ou d'une seconde naissance. Panoramix sort Obélix de la marmite, tout mouillé. Il le sort du bain, ce qui peut rappeler la liturgie du baptême. Et puis, une autre liturgie de la marque qui renvoie à la coupe et sans doute également à la circoncision. Donc, voici Obélix désormais référé à une figure paternelle, institutionnelle, puisque le druide est une figure institutionnelle du village. Et donc, on recrée une triangulation.
C'est entre, le papa Panoramix.
Voilà, le papa Panoramix, de même qu'on a un Oumpapa.
Bien sûr, qui est un Oumpapa, qui était ce peau rouge, qui est un père dessiné et indien. D'Obélix.
Tout à fait, tout à fait. Il y a une filiation directe entre les deux personnages et la figure du père est une thématique récurrente dans l'œuvre de Goscinny. Il faut faire référence au calife, un parricide qui échoue systématiquement dans Is No Good, par exemple. Donc voilà, Obélix est présenté à sa mère, affolée, et donc on a cette triangulation entre la mère, le ventre, la marmite, le collage au ventre maternel d'une part. Obélix, l'enfant, désormais référé à une figure de l'ancêtre, parce qu'on nous dit aussi que le druide est sans âge. Il y a un jeu de mots entre druide sans âge et druide eubage. Et donc, voilà une figure qui va relayer la figure du père et qui va donc inscrire la coupure, la séparation par rapport au fantasme d'une identité impossible. Voilà quelle est la seconde naissance d'Obélix. Et donc, c'est parti pour les bagarres, c'est parti pour les baffes et pour ces friandises que sont les Romains.
Et des Romains, et il y en a d'autres. Alors, on va justement s'intéresser aux origines et écouter Henri Salvador.
Nos ancêtres, les Gaulois, cheveux blonds et tête de bois, longue moustache et gros dada, ne connaissaient que ce refrain-là.
Alors, on ne rigole pas avec les choses sérieuses. Donc, ce qui est important, c'est de rappeler aussi que l'histoire que vous racontez, c'était dans un super pocket pilote.
Oui, publié en 65, un récit illustré qui a été repris sous forme d'album en 1989 par Albert Uderzo aux éditions Albert René.
Albert Uderzo, qui est un petit peu l'un des modèles aussi d'Obélix. Astérix, c'était le petit malin représenté par René Goscinny.
Oui.
Et Obélix avait souvent les traits d'Uderzo.
Voilà, les auteurs adoraient se grimer, se déguiser pour diverses émissions ou festivités. Et très souvent, de par sa stature, sa carrure, c'était Uderzo qui représentait Obélix. Et Goscinny était donc la figure du petit, du malin, etc.
Mais Obélix, c'est un petit peu aussi l'idole des enfants. C'est celui qui incarne comme Hardy de Laurel et Hardy, cette espèce d'enfant géant.
Oui, c'est une figure d'enfant ultra sensible, qui est assez complexe, qui a ses manques, qui est engagé dans un processus d'apprentissage aussi. Il ne comprend jamais tout à fait ce qui se passe autour de lui. Il faut toujours qu'on lui explique les choses. Il demande le sens des mots. Il a une certaine lourdeur d'esprit également. Et puis, il ne pense qu'à jouer.
Et à manger.
Et à manger, voilà.
Mais quand il mange, il y a une notion de dévoration, c'est-à-dire qui est sans limite.
Il y a une tension libidinale certaine. On le voit dans la morsure, la morsure des sangliers à force giclée, là, quelque chose qui nous renvoie vraiment à une fixation orale ici, qui peut rappeler le plaisir de l'enfant pour le sein quasiment. Hein. Mais la tension libidinale, elle se transfère aussi à la main. C'est l'agrippement, l'embrassement et puis la baffe. Cette fois-ci dans un geste d'expulsion. Mais d'ailleurs, la chasse, hein, c'est le prolongement, et la cueillette sont le prolongement direct de la dévoration. Et dans cette chasse, il n'y a finalement guère de différence entre les sangliers et les Romains. Finalement, les Romains sont décrits sur le mode de la friandise.
La différence, que les Romains, on ne les mange pas.
Les Romains se dégustent et on s'en régale. Et d'ailleurs, on peut faire durer le plaisir en les secouant. Ça dure plus longtemps que l'expulsion de la baffe. Et puis, vous savez que la qualité du Romain, parfois, peut laisser à désirer. Il se ramollit, par exemple. Ou bien alors, il nous persécute par son absence. Donc, on attend l'arrivage de troupes fraîches.
Oui. Hein? Alors, il y a toujours ce lien entre le Romain et des adjectifs gastronomiques.
Oui. Alors effectivement, là, on a tout un registre. Hein. Alors, les Romains, on les mange par douzaines. Après la deuxième douzaine, on commence un petit peu à se lasser, disent les autres villageois. Les Romains, c'est comme les huîtres. Ça, c'est la mauvaise foi d'Obélix. Oh, tu sais, Astérix, les Romains, c'est comme les huîtres. Les petits sont les meilleurs. tu veux pas me le laisser ? Celui-ci, il est un peu gras, par exemple. Voilà, donc on va trouver tous ces adjectifs qui permettent de complètement dédramatiser, évidemment, ces bagarres qui sont le contraire de la violence, contrairement à ce qu'on a pu dire.
Et est-ce que vous pensez que Offenbach a pu influencer Goscinny ?
Ah, c'est possible.
Parce que le combat sanglier singulier, est-ce qu'on l'écoute ?
Oui.
Que le combat sanglier singulier commence.
Sac à papier, je crois que...
Oh, je n'ai pourtant pas bu de vin blanc.
Au nom d'un petit bonhomme, je crois que j'ai mal au cœur.
Écriteau de Moussamor, oh là là.
C'est ce que je voulais dire. Oh là là, oh là là.
Alors, on a d'abord entendu Croque-Faire d'Offenbach. Vous ne trouvez pas qu'on est vraiment très proche de l'univers de Goscinny et d'Uderzo ? Et là, on se retrouve dans une musique de Gérard Calvi, qui est une musique de sanglier. Vous n'êtes pas frappé par ce son très Obélix ?
Oui, tout à fait. Je crois qu'on est un peu dans une même imagerie, un même univers de représentation. J'ai été frappé par l'analogie, la proximité entre sanglier et singulier. C'est intéressant. Et pour ma part, j'ai fait un autre rapprochement entre le sanglier et le sang lié, la question des liens du sang.
Parce que vous voyez la nourriture comme marqueur d'identité réellement. Hein, c'est...
Oui, alors à plusieurs niveaux. Tout d'abord, je crois que la chaîne alimentaire est une chaîne symbolique et qu'elle nous renvoie à la question de la généalogie. Et c'est une question très importante pour Goscinny, puisque sa famille est victime d'un saccage généalogique à travers la déportation de trois de ses oncles à Auschwitz, le décès de ses grands-parents maternels dans la fuite de la zone occupée. Donc la question de la filiation et de la généalogie est très importante. Or, que nous dit Astérix ? Eh bien, d'abord, on apprend que la potion magique a pour ingrédients le gui et les racines d'arbres, et que les sangliers se nourrissent de racines. Et donc, nous dit Obélix, les racines, c'est bon pour les sangliers, et les sangliers, c'est bon pour nous. Donc on voit bien qu'il y a une chaîne symbolique autour des racines. Et que dit Obélix quand il se délecte d'un sanglier dans le Tour de Gaulle ? Il nous dit que c'est délicieux et qu'il a un arrière-goût à réveiller un mort. Et donc je crois qu'on peut s'amuser à prendre cette parole au sens propre. Il y a un arriéré qui ressurgit et peut-être donc une dette généalogique. Le sanglier finalement nous réinscrit dans la chaîne des filiations. Comme dit Freud, c'est la marque que l'on doit une mort à la nature, que certains nous ont précédés, d'autres nous suivront. Et Obélix a besoin de cette vérité, il s'en nourrit et c'est sa force. C'est la castration symbolique dont il a besoin. Et finalement, son rapport aux Romains, les baffes qu'il distribue, c'est une bonne nouvelle. Il baptise en quelque sorte les Romains qu'il rencontre et il appose une limite au fantasme de toute puissance.
Et Nicolas Rouvière, quand Idéfix pleure, le petit chien Idéfix pleure parce que les arbres sont déracinés, c'est ça aussi.
On a souvent dit qu'Idéfix était un chien écolo, qu'il pleurait la chlorophylle, etc. Je crois que c'est une sentinelle du lien aux racines. Et d'ailleurs, il veille également sur un petit garçon. Ce petit garçon, c'est Pépé, le fameux Pépé d'Astérix en Hispanie, un petit garçon donc qui a été kidnappé par César, délivré par les Gaulois, et qui nous révèle, alors, qui fait constamment référence à son père est le chef sous Palognone y Croutone, encore une référence à la nourriture. Et surtout, ce Pépé, c'est très bien lui qui sont ses ancêtres. Et il a pour ancêtre un certain Périclès. Il aurait donc des ancêtres grecs. D'où ensuite ce prénom très intéressant, Pépé, qui nous renvoie en français à la fois au diminutif de grand-père, donc un autre maillon dans la chaîne des générations, mais qui nous renvoie aussi à Périclès. Et à José en espagnol. Voilà, c'est le diminutif de José. Donc on voit que cette symbolique est à l'œuvre constamment et Idéfix veille sur Pépé comme sur les arbres.
Rappelons, ce Pépé, c'est ce petit garçon qui retient sa respiration dès qu'il est en colère.
Voilà quelqu'un qui a intégré la coupure à défaut d'Obélix. Donc c'est le double inverse d'Obélix quand il était petit. Et d'ailleurs, Obélix n'arrive pas à être son tuteur. Et la relation entre Pépé et Obélix est très problématique. Finalement, Obélix a devant les yeux tout ce qui lui manquait quand il était petit, l'enfant qu'il n'était pas et qu'il peine et ce qu'il peine encore à devenir malgré la sortie de la marmite.
Mais alors ce complexe de grosseur, comment vous l'interprétez ?
Alors je crois que cette grosseur nous renvoie directement à l'épisode de la chute et nous rappelle que la seconde naissance d'Obélix a été tardive et problématique. Et puis l'adjectif gros, il est négatif, il tend un peu à réifier le personnage, à le constituer, à former un tout, une totalité. Obélix préfère dire qu'il est enveloppé. Donc il y a la notion du pli, il y a la notion du décollement.
Il est moyen aussi.
Voilà, il est moyen aussi. Et finalement, décoller du ventre, décoller de la marmite, ne pas rester attaché ou collé, c'est un enjeu véritablement essentiel pour se construire comme sujet.
Alors, il y a un acteur qui s'est fondu dans le corps de la marmite, c'est Gérard Depardieu. Et je vous invite à voyager avec lui, faire un petit voyage en avion. L'hôtesse de l'air, c'est Guillaume Gallienne.
Mesdames et messieurs, en vue de notre prochain décollage, veuillez remonter votre tablette et attacher votre ceinture, merci. Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please replace your tray in the upright position and fasten your seatbelt, thank you.
J'ai besoin d'un sanglier.
Attends qu'on est décollé.
Non, je ne peux pas attendre, il m'en faut un maintenant. Mademoiselle, tu peux avoir un sanglier ?
Après le décollage, monsieur.
Voilà.
Non, il m'en faut un maintenant, je ne peux pas attendre.
Rasseyez-vous, s'il vous plaît,
je ne peux pas attendre,
mais
c'est mal, ça fait mal au ventre, la part.
S'il vous plaît, monsieur,
ne fais pas d'esclandre. Pardon, tout va bien. Tu veux un
sanglier ? Ces Gaulois connus seront vraiment tout permis.
Pardon ?
Oui, bah oui, excusez-moi.
Végétarien.
Vous avez vu que l'injure, c'est végétarien.
Oui. Depardieu est fantastique dans le rôle d'Obélix. Il a une candeur, une sensibilité vraiment. Je crois qu'on mesure parfois mal le talent là, pour représenter ce personnage, l'incarner. Et je crois qu'on aura beaucoup de mal à trouver un remplaçant si la série se poursuit au cinéma.
Si on revient à cette idée de se remplir... Comment Obélix se remplit et comment il se remplit de son humanité ?
Oui, il se remplit d'amour. Il a besoin absolument de l'amour de ses proches, les amis, les copains. Hein. Il y a toute une utopie de la bande de chouettes copains chez René Goscinny, à commencer par le journal Pilote.
Oui.
Et puis, il a besoin, par exemple, de son petit chien Idéfix, qui est là pour le consoler, qui lui donne confiance, qui lui évite de nourrir trop de complexes.
Et des eaux, à ronger. Parce que si on reste sur le terrain gastronomique, l'os d'Idéfix a une importance capitale.
Oui, oui, l'os d'idée fixe, effectivement, c'est un thème qui précède en fait la question de l'arrachement des arbres et qui commence par caractériser le personnage. Et d'ailleurs, qui n'est pas antinomique avec une autre symbolique, la symbolique de la généalogie telle que je l'évoquais. Obélix a besoin d'amour, je crois. Il a besoin aussi qu'on lui tende un miroir très positif de lui-même pour éviter une forme d'effondrement, de dévalorisation. On assiste à ces scènes, par exemple, sur le sujet de sa grosseur, alors qu'ils sont en quête d'un psychothérapeute pour guérir le druide Panoramix. Voici un Obélix donc introduit sur le divan. Il tombe sur un druide, le druide Amnésix, qui se méprend totalement et lui dit « ne dites rien ». Je sais ce que vous avez, vous êtes gros et cette grosseur vous fait souffrir. Et Obélix va intérioriser cette image, en plus renvoyée par qui de droit, un druide officiel, et s'effondrer littéralement au sortir de la hutte sur ce fameux complexe de grosseur. Donc il a besoin absolument de réassurance en permanence. Et évidemment, ce qui va compter pour lui, ce sont aussi les structures sociales du village. C'est-à-dire que la fonction parentale, la fonction paternelle, elle a besoin d'avoir des relais. Le druide en fait partie, mais aussi le chef, mais aussi le barde.
Alors, et donc, on parle du chef, Abraham Coursix, qui lui aussi est un petit peu bas de poitrine.
Oui.
Et qui a des problèmes de foi.
Oui.
Et qui va soigner ses problèmes de foi.
Oui, alors là, on touche à l'un des prolongements politiques du thème de la nourriture. Abraham Coursix souffre de crise de foi. Et où est-ce que Panoramix l'envoie en cure ? À Vichy.
Et donc, ça, c'est dans le bouclier Arverne.
C'est dans le bouclier Arverne. Et donc, quand le corps politique est malade, eh bien, c'est à Vichy qu'il faut l'envoyer se soigner. Et de quoi souffre Abraham Coursix ? Pas seulement d'un trop-plein, il souffre aussi d'un vide. Et ce vide, c'est le refoulement de la défaite d'Alésia. Il ne veut entendre parler que de l'immortelle victoire de Gergovie, mais jamais de la défaite d'Alésia. Et derrière Alésia, c'est à une autre défaite que l'on pense. La défaite
Bien
de juin 40. Et ça n'est pas un hasard. Donc, c'est à Vichy qu'il faut faire retour sur les éléments du passé. Finalement, dégonfler le mythe résistentialiste selon lequel toute la Gaule ou toute la France aurait été résistante, mais revenir sur les grandes et petites lâchetés qui ont émaillé les années de l'occupation. Pour refonder finalement son propre pouvoir politique, mais aussi un idéal du lien à l'autre et du lien politique et communautaire. Et voilà quel va être le trajet d'Abraham Coursix dans cette histoire.
Et un trajet qui passe par la case vin et charbon.
Oui, alors là, on touche à un stéréotype, évidemment. Alors, on voit qu'Astérix, c'est quand même très parisiano-centré, si je puis dire, puisque un Auvergnat ne peut être qu'un vendeur de vin et charbon.
Alors, on dit souvent que l'argent n'a pas d'odeur, mais dans Astérix, l'argent a une odeur.
Ah oui, et ça, c'est un ressort créatif très fort chez Goscinny. C'est de partir d'un adage populaire et de le prendre au sens propre pour créer un récit autour de cette transformation. Et effectivement, l'argent a une odeur dans Astérix et le Chaudron, publié en 69. Et c'est un argent malhonnête, finalement, puisque...
Sans l'oignon, ce qui a un autre sens aussi.
Oui, oui. Et il faut reconnaître que la vérité sort souvent de la bouche des enfants et qu'Obélix, dès le départ, a l'intuition la plus juste qui soit, car il comprend tout de suite qu'il n'est pas normal que des sesterces soit versé dans un chaudron qui sent la soupe à l'oignon. La seule chose que l'on puisse
sans
trouver dans un
là,
chaudron qui sent la soupe à l'oignon, c'est de la soupe à l'oignon. Et selon sa logique implacable, hein, le principe de non-contradiction donc, qui est le sien, il sent tout de suite que là, il y a une supercherie et que donc le chef voisin moral Elastix qui demande aux villageois de garder ce fameux chaudron avec les sesterces, en vérité leur ment et que... Il a dissimulé en vérité l'or des impôts et c'est lui qui va ensuite voler cet or durant la nuit et demander aux Gaulois de rembourser la somme.
Mais ce qui est très frappant, c'est que dans l'ensemble des premiers albums d'Astérix, la dimension orgiaque de la nourriture est très importante. Dans Astérix et les Helvètes, par exemple, il y a un jeu autour de la nourriture, un jeu sadomasochiste même autour de la nourriture, sans parler dans Astérix et les Gladiateurs, la confiture d'épluchures de saucisson.
Et les gencives de Cancrelat de Mongolie.
Mais voilà.
Donc il y a un versant négatif. Il y a aussi un versant négatif à la nourriture. Alors il y a deux emblèmes très très forts. il y a dans Astérix chez les Helvètes une marmite remplie de tripes de sanglier frites dans de la graisse d'Urus.
Bien sûr.
Et là, c'est un objet qui fascine littéralement les convives et surtout les médecins qui devraient normalement s'occuper du questeur romain malade, être à son chevet et le soigner, et qui sont détournés de leur fonction par le gouverneur corrompu qui commet un parricide ici. Donc ici, il y a un symbole vraiment meurtrier, un symbole de toute puissance, une fascination extrême pour cet objet de la non-limite. Et on va retrouver cette symbolique qui se déploie dans tout l'album avec une autre marmite, un autre collage à la marmite, mais cette fois-ci la marmite de fromage fondu. Et bien on sûr. Voit tous les convives du gouverneur, cette fois-ci de Genève, qui sont recouverts littéralement par la colle du fromage.
Du fromage fondu.
On ne les distingue plus et ils jouent à un jeu meurtrier qui consiste à finalement ne pas laisser tomber son bout de pain au fond de la marmite, sans quoi on finit non pas dans une marmite, mais dans un lac.
Au fond du Léman. Avec un boulet au pied, mais avec le désir d'y plonger, parce que tout le monde n'espère qu'une punition suprême.
C'est complètement masochiste. On voit une pulsion de mort ici.
Alors, avant de nous quitter, ça serait bien d'avoir un petit dessert, peut-être.
Oui.
Un petit gâteau.
Obélix, coupe 3 parts de ce gâteau. On a dit 3 parts, Obélix.
Une.
Oui, Cratini.
2. Et 3.
Bien sûr. Eh bien, Reine, vous voyez qu'il n'est pas empoisonné, ce gâteau.
Nicolas Rouvière, dans le complexe d'Obélix, votre livre, vous ne répondez pas encore à la question est-ce que Obélix est mithridatisé ? Est-ce qu'il y a un antidote dans la marmite qui le protège et qui le protège de tous les autres poisons ?
C'est difficile à dire. Je crois que l'antidote, il réside dans la sortie de la marmite, il réside dans le sanglier et tous les symboles qui peuvent entourer ce qui le réfère à une figure de l'ancêtre et à une généalogie. Je crois que là est l'antidote permanent à la barbarie, à la folie, au narcissisme mortifère et à la toute-puissance.
À la gourmandise.
Non, la gourmandise est toujours reliée à un stéréotype aussi culturel très positif, hein, celui de l'hédonisme, celui du vivre ensemble, du partage.
Et celui du bon goût de ne pas dîner en musique, puisque la seule fois où je crois que le barde joue, c'est dans le premier épisode d'Astérix le Gaulois.
Oui, alors ça, c'est vrai que ça frappe les esprits. Hein. La référence au baillon durant le banquet, on a pu parler de bouc émissaire, on ne comprend pas pourquoi Assurance Touring s'est ainsi ostracisé.
Mais si, parce qu'on ne mange pas en musique.
Ah, ben voilà, le bon goût, alors peut-être, ça peut être une piste.
Merci beaucoup, Nicolas Rouvière, mais lisons le complexe de Bélix.
Merci.
Tu tombes dans la marmite quand t'étais petit.
Fais attention, hein.
3, 4.
C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Anna Crugère, préparée par Romain de Bec de Lièvre. La prise de son est de Philippe Bredin, le mixage d'Éric Boisset et la mise en onde de Delphine Lemaire. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et 1000 nuits. Vous pouvez aussi la télécharger sur le site de France Culture et dans quelques instants, le journal.